Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en mai 1863 à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées. Dans quelques heures, une exposition un peu spéciale s'ouvrira dans une annexe du Palais de l'Industrie et des Beaux-Arts, le Salon des Refusés. C'est l'empereur Napoléon III lui-même qui a décidé de l'organiser pour que le public puisse juger les centaines d'œuvres refusées par le salon officiel. Dans les galeries du palais, le peintre Édouard Manet promène anxieusement sa silhouette de dandy. À 31 ans, cet éternel incompris a malheureusement toute sa place ici. Depuis ses premières toiles, les membres du jury n'ont cessé de rejeter son art, jugé bien trop éloigné des critères académiques. Alors pour lui, qui rêve de reconnaissance, le salon des refusés, c'est l'occasion d'exposer enfin trois de ses œuvres. À l'ouverture des portes, une masse dense s'engouffre dans le palais. La presse a attiré de nombreux curieux et très vite on n'entend plus que les éclats de rire et les commentaires féroces de ses visiteurs, trop heureux de moquer les artistes ratés. Mais lorsqu'on découvre une toile signée Manet, les railleries laissent place aux protestations outrées. Face au déjeuner sur l'herbe, les yeux s'écarquillent, les mains se plaquent sur les lèvres. C'est un scandale! Sur une toile de plus de 2 mètres sur 2, Édouard Manet a peint 4 personnages en train de pique-niquer dans une clairière. Oui, mais parmi eux, il y a une femme totalement nue qui regarde le spectateur droit dans les yeux. Loin d'être la représentation d'une nymphe issue de la mythologie, elle défie la bienséance. C'est une prostituée. Le public s'émeut. Mais où est donc passée la bonne morale? Manet déchante. On ne le comprendra donc jamais. Fort heureusement, dans les sphères artistiques et intellectuelles, des voix s'élèvent pour défendre le travail d'Édouard Manet, à commencer par celle de l'écrivain Émile Zola. Avec le peintre réaliste Henri Fantin-Latour, les critiques Zacharie Astruc et Louis-Edmond Duranty, ou encore le photographe Félix Nadar, ils forment le groupe des Batignolles. Chaque semaine, ils se réunissent au café Gerbois, un boc à la main et une pipe fumante dans l'autre, les tenants de la modernité refont le monde. Mais ce soir-là, alors que les esprits s'enivrent, Édouard Manet revêt son haut de forme et quitte discrètement la tablée. Nous ne sommes qu'à quelques rues de son appartement. Ses amis connaissent-ils les secrets que ses murs renferment? Car si le nom du peintre est sur toutes les lèvres, sa vie privée, elle, est auréolée de mystère. En 1850, alors que Manet a tout juste 18 ans, il entame une liaison avec sa professeure de piano. C'est une rousse plantureuse, tout droit venue de Hollande. Édouard et Suzanne, oui c'est son nom, se fréquentent en secret. Est-ce à cause de son statut d'étrangère et du fait qu'elle soit issue d'une famille d'artistes sans fortune? Toujours est-il que ni la famille ni les amis de Manet ne la fréquentent vraiment pendant 13 longues années. Pourtant, Suzanne s'installe dans l'appartement bourgeois du peintre, au cœur du quartier des Batignolles. Mais les amants n'y sont pas seuls. Derrière la porte de M. Manet, on entend souvent les rires joyeux d'un enfant et ses pas saccadés qui résonnent sur le parquet. Ce petit garçon, c'est Léon. Suzanne le présente comme son jeune frère. Il l'appelle marraine, quant à Manet, il est son parrain. Mais tout cela est bien étrange. Léon est né en 1852, soit 2 ans après la rencontre d'Édouard et Suzanne. Se pourrait-il en fait qu'il ait été leur fils caché? Après tout, un enfant né hors mariage dans une bonne famille comme celle de Manet, c'eût été un déshonneur. Quoi qu'il en soit, Léon apparaît sur plusieurs toiles du peintre. On le voit grandir sous son pinceau. Il est l'enfant à l'épée, celui qui s'amuse dans les bulles de savon ou encore le jeune homme au canotier du déjeuner dans l'atelier. Mais le garçonnet n'est pas le seul modèle récurrent d'Édouard Manet. Une artiste peintre prometteuse, dont les œuvres ont déjà été exposées au salon, suscite bientôt sa fascination. Un matin de 1868, Berthe Morisot, 27 ans, se présente rue Guyot au cœur des Batignolles. Édouard Manet lui ouvre les portes de son univers, un grand atelier rempli de bouquets de fleurs, des pivoines et des hortensias dont l'odeur délicate imprègne les murs. Aux 4 coins de la pièce, des jupons abandonnés gisent sur les sofas, preuve s'il en faut du passage fréquent de quelques dames dans cette garçonnière, un jour amante, l'autre modèle. Berthe Morisot intrigue Manet. Il veut immortaliser sa silhouette avec son pinceau. Sur une première toile, Berthe apparaît vêtue d'une robe de mousseline blanche. Elle est accoudée à la rambarde verte d'un balcon. Autour d'elle, d'autres jeunes gens semblent perdus dans leurs songes et une petite silhouette fait penser au jeune Léon. Ce tableau, c'est le balcon. Une œuvre inspirée du travail de Goya et que l'on peut aujourd'hui admirer au musée d'Orsay. Le balcon est la toute première collaboration de Manet et Morisot, et la première d'une longue série, puisqu'il la peindra sur une quinzaine d'autres toiles. Ces longues heures de travail permettent aux artistes de tisser un lien particulier. Un lien d'amour ou d'amitié? En fait, on ne connaît que trop peu la nature de la relation d'Édouard et Berthe. Ont-ils entretenu une liaison dans l'ombre de l'atelier du peintre? Rien ne l'atteste. Mais des indices semés ici ou là le laissent penser. Après le balcon qui lui attire à nouveau les foudres des critiques conservatrices, Édouard Manet fait de Berthe Morisot sa muse. Et à chaque nouveau tableau, c'est une plus grande complicité qui transparaît entre eux. Berthe espiègle qui se cache derrière un éventail, Berthe qui laisse entrevoir sa cheville nue. Et c'est bien sûr à Manet que l'on doit le portrait le plus célèbre de Berthe Morisot. Sur cette toile, elle est vêtue de noir et porte un chapeau de la même couleur dont quelques mèches rebelles s'échappent. Sur sa poitrine, ce n'est pas un bijou qui accroche le regard, non. C'est un petit bouquet de violettes, des fleurs encore. Elles abondent sur l'étoile de Manet, mais ici, le choix de la violette n'est certainement pas un hasard. Dans le langage des fleurs, elle signifie l'amour secret. D'ailleurs, juste après cette toile, Manet peint une petite nature morte. C'est un bouquet de violettes déposé sur une feuille de papier où sont griffonnés ces mots « À Berthe », signé Manet. En 1872, Manet peint pour la dernière fois les traits de Berthe Morisot. Sur cet ultime portrait, elle apparaît toujours en noir, un éventail à la main. Mais c'est un autre détail qui saute aux yeux. À l'annulaire gauche, Berthe porte une bague de fiançailles. À 33 ans, elle sera bientôt mariée. Mademoiselle Morisot deviendra officiellement Madame Manet. Pourtant, ce n'est pas Édouard qui lui fera face devant l'autel. Non, lui est déjà marié. Il a fini par épouser Suzanne, que Berthe surnomme d'ailleurs la grosse Suzanne. En fait, Berthe Morisot s'unira à Eugène, le plus jeune frère d'Édouard Manet. Et à partir de ce jour, plus jamais, elle n'apparaîtra sur ses toiles. Mais alors que Berthe Morisot devient officiellement la belle-sœur d'Édouard Manet et laisse planer pour toujours le mystère entourant la nature de leur liaison, un autre secret éclate. Cette même année, Léon, qui a désormais 20 ans, découvre la vérité que Suzanne s'est tant évertuée à cacher. Suzanne n'est pas sa sœur aînée, non, elle est sa mère. Mais pourquoi a-t-elle tué leur véritable filiation? Léon n'aura jamais le fin mot de ce secret de famille. Jamais Manet n'avouera être son père. Il restera ce parrain qui lui voue une affection toute sincère. En 1883, Édouard Manet abandonne Suzanne, Léon et Berthe à leur chagrin. À 51 ans, le peintre est emporté par la gangrène et avec lui disparaissent les secrets jamais révélés de sa vie.
Europe 1, historiquement vôtre.